9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS, à votre santé, bonjour et bienvenue. C'est une journée particulière, nous sommes le 14 novembre et j'ai invité le docteur Régina Lalouche. Comment allez-vous, doc?
Très bien, et vous-même, Philippe?
Ça va bien, vous êtes ingénieur, j'aime bien quand je vous vois beaucoup.
Ah bon?
J'en profite. Vous êtes un ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Vous êtes auteur de nombreux livres, mais je voudrais qu'on parle ce matin de la méthode anti-diabète, la nouvelle méthode anti-diabète que vous avez publiée il y a quelques temps aux éditions Flammarion. Pourquoi ? Parce que le 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi le 14 novembre pour fixer cette journée ?
Alors, le 14 novembre, parce que c'est le jour anniversaire de la naissance de Frederick Banting, à qui on attribue la découverte de l'insuline. En fait, Banting, c'est un chirurgien canadien, et en 1922, il montre que le pancréas n'a pas seulement une fonction exocrine. Vous savez, le pancréas, c'est un organe qui est très très profond. Derrière le tube digestif, il y a cette glande qui fait à 50% de l'exocrine. Ça veut dire quoi, de l'exocrine? Crine, ça veut dire sécrétion. Exo, ça veut dire à l'extérieur. Il fait des sucs pancréatiques pour la digestion. Voilà. Et ça va dans un canal et dans l'intestin.
Par
dans
opposition l'intestin. À endocrine.
À endocrine, oui. Ça veut dire, il sécrète dans le sang. Et sa fonction endocrine, qu'a découverte Frederick Banting, c'est l'insuline. Il sécrète de l'insuline. Et cette insuline va permettre une fonction essentielle. L'insuline, c'est une clé qui se met sur la surface des cellules pour ouvrir la surface de la cellule et faire entrer le sucre. Si vous n'avez pas l'insuline, le sucre reste dans le sang et ne rentre pas dans les cellules. Et si les cellules n'ont pas ce glucose, eh bien, elles meurent. C'est tout simplement.
L'hormone du XXe siècle, comme on l'a appelé, l'insuline.
L'hormone reine reine absolue. Voilà. Et donc, Frederick Banting, il a remarqué ça. Et puis, il y avait un étudiant en biochimie qui passait, qui s'appelait Charles Best, qui était là. Et ils ont fait des expérimentations sur des animaux. Et ils se sont aperçus qu'effectivement, ils ont réussi à isoler l'insuline. Ça leur a valu... un ou plusieurs prix Nobel, d'ailleurs.
C'était sur des chiens, non?
Des chiens ou des lapins.
Ils ont testé quoi?
Mais avant, il y a eu des choses avant 1922. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, on a commencé à subodorer. D'abord, il faut savoir que les gens qui étaient diabétiques à l'époque... Alors attention, vous savez qu'il y a deux types de diabète. Enfin, il y en a trois types de diabète. On le rappelle peut-être rapidement?
Oui, puisque de toute façon, c'est la journée mondiale du diabète.
Il y a le diabète de type 1, qui est une maladie qui touche plutôt... les adolescents, les enfants, les nourrissons, qui est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont une infection, et cette infection, au lieu, eux, de faire des anticorps contre l'infection, ils vont faire des anticorps en même temps contre leur propre pancréas. D'ailleurs, c'est un truc intéressant sur ce qui va... On a trouvé des choses pas mal et intéressantes, on va y revenir. Et donc, ils détruisent leur pancréas. S'ils détruisent leur pancréas endocrine, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il n'y a plus de sécrétion d'insuline, et toute leur vie il faut qu'ils s'injectent de l'insuline. Aujourd'hui, le traitement est parfait. Je pense que vraiment, alors bien entendu, il y a des diverses situations en fonction des individus, mais en gros, la vraie découverte, on a découvert l'insuline, on l'a isolée, on l'a reproduite, on a pu l'injecter, et maintenant on est arrivé au point où on a des stylo-piqueurs.
Alors c'est ce que vous êtes en train de montrer. Alors voilà. C'est pas très radiophonique ce que vous faites, mais on va expliquer ce que vous faites.
C'est un stylo qu'on charge, qu'on arme, et puis on se pique, on appuie sur le bouton et l'insuline est injectée. Voilà. Donc alors qu'avant c'était beaucoup plus compliqué, aujourd'hui avec un stylo comme ça, eh bien on peut faire 3 ou 4 injections par jour, très très simplement, ça va très très vite. Et puis il y a même aujourd'hui de ce qu'on appelle la boucle fermée, c'est-à-dire que vous avez des pompes à insuline. Il y a une mesure par des capteurs et le capteur donne la glycémie en temps réel et la pompe peut adapter le traitement au patient. Donc en fait, aujourd'hui, un diabétique de type 1, bien pris en charge, à part l'adolescence qui est compliquée, parce qu'à l'adolescence, on rejette tout et on rejette aussi sa maladie parce qu'on en a marre de se piquer alors que les autres ne se piquent pas. Mais en gros, un diabétique de type 1, il a à peu près la même espérance de vie qu'une personne sans diabète de type 1. Donc ça, c'est 10% des diabètes. D'accord ? Après, vous avez le diabète de type 2, qui fait 90% des diabètes. Et ça, c'est une maladie où il faut toujours une prédisposition génétique. Il y a toujours de la génétique là-dedans. Vous savez que si vous avez un parent diabétique, vous avez 40% de risque d'être diabétique vous-même, à l'âge adulte. Après,
là, on parle de type 2 toujours. Hein.
Type 2. Mm-hmm. Et si vous avez deux parents diabétiques, c'est 70% de risque d'avoir un diabète. Mais, ça n'est pas irrémédiable. Ça n'est pas...
Et pourquoi on a plus de risques, en fait, finalement c'est,
Parce que quand vos parents sont diabétiques, ils ont exprimé probablement certains gènes qui vous ont transmis à la naissance. Et ces gènes, si vous êtes confronté à de la sédentarité et un mauvais environnement alimentaire, eh bien, vous allez les exprimer à votre tour, et vos enfants également. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Voilà. L'épigénétique, c'est qu'on a nos gènes, on a 24 000 gènes, on en a 8 000 actifs à peu près, et puis, dans l'actif, il y a les actifs pleins, ils sont à 1, d'autres, dans les autres, ils sont à 0, et puis il y en a d'autres qui sont à 0,5, à 0,25. Et en fonction de l'environnement, nos gènes vont s'exprimer, vont s'allumer un peu, s'éteindre un peu, ainsi de suite. C'est ça qui fait que l'environnement, ça qu'on appelle l'épigénétique. Parce que quand on vit dans un environnement, eh bien, on va se servir de notre patrimoine génétique pour s'adapter à l'environnement. C'est ce qu'a fait l'homme. Hein. L'homme s'est extrêmement bien adapté à l'environnement parce qu'il avait une richesse génétique importante.
C'est pas parce que dans une même famille, tout le monde mange de la même façon, finalement, aussi.
Mais c'est l'environnement.
Oui.
Bah oui. L'environnement, c'est pas l'environnement, c'est pas l'écologie, hein. C'est pas le réchauffement climatique, hein. L'environnement, c'est le mode de vie, le mode social, le mode alimentaire. Si vous avez des parents que vous avez vus toute votre vie dans l'enfance prendre leur sac, aller faire de l'exercice, vous ferez de l'exercice. Si vous voyez vos parents qui sont uniquement sur le canapé, eh bien, à ce moment-là, vous resterez sur le canapé.
Aujourd'hui, l'insuline, on la fabrique à partir de quoi, docteur Allouche?
Alors, on la synthétise maintenant. À la synthétise. Avant, on la faisait à partir du porc, et puis maintenant, on en a fait des insulines qui sont totalement synthétiques et beaucoup plus sûres d'ailleurs, hein, beaucoup plus sûres. Donc aujourd'hui, l'insuline, c'est vraiment un traitement, mais c'est pour le diabète de type 1. Le diabète de type 2, ça n'est pas l'insuline, le traitement. Alors je vais revenir sur le diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est une maladie donc qui s'exprime avec, en général, après 40 ans. Je dis bien en général, parce qu'actuellement, aux États-Unis, c'est après 20 ans maintenant.
Les choses sont en train de changer. Hein.
Voilà, les choses sont vraiment en train de changer. Et même en France, hein, on commence à avoir après 30 ans des diabètes de type 2. Donc, tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une offre alimentaire absolument incroyable. Et donc, on est tenté. Hein, parce que vous savez qu'en matière alimentaire, c'est l'offre qui génère la demande. Hein, c'est plus on vous met des trucs sous le nez, à moins d'être moins de zen absolu, et encore, parce que voilà, ouais. Vous allez craquer.
Hein, plus la barre chocolatée est grosse, et plus vous mangerez des barres chocolatées grosses.
Ah, je suis même pas sûr, parce qu'il y a une composante hédonique. Mais il y a des petites barres chocolatées qu'on vous met là, les petites chouquettes à 11h au bureau, les machins, les trucs, et hop, et on y va, et on y va, et on y va, on y va. C'est comme ça que ça marche, hein. Et c'est l'offre qui conditionne la demande. Donc, le diabète de type 2, c'est 90%, c'est 700 millions de gens dans le monde. Voilà. Il y a le troisième type de diabète, c'est le diabète gestationnel. C'est un diabète qui démarre avec la grossesse et qui, en général, au deuxième trimestre de grossesse et qui se termine à l'accouchement. Mais, les femmes enceintes qui ont eu un diabète gestationnel ont 50% de risque d'être diabétiques après 40 ans. Donc, une femme qui a eu un diabète gestationnel doit être surveillée et tous les ans faire une glycémie et une hémoglobine glyquée pour s'assurer qu'elle n'a pas de diabète en préparation. Et puis, il y a Le j'ai dit trois formes, mais il y en a deux autres que je cite pour mais qui font très très peu de pourcentage. C'est le diabète génétique, le MODY, MODY, hein, pas voilà, et le diabète, le LADA, qui en fait le diabète du type 1, je vous ai dit que c'était avant 20 ans, mais en fait c'est un late adult diabète qu'on a après 40 ans, mais qui se soigne comme un diabète de type 2. Ça c'est des diabètes. Et puis vous avez la phase précoce, qu'on appelle le prédiabète. Et ça c'est ma passion. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle le prédiabète, c'est une zone un peu grise, hein, qui est que vous avez une glycémie à jeun. Glycémie, je rappelle, glyc, sucre, glucose, hémie, sang. Donc c'est le taux de sucre dans le sang à jeun. Donc la normale, c'est entre 0,75 g par litre et 1,05 g par litre. Ça, c'est la normale. Je rappelle que pour les femmes enceintes, c'est moins de 0,9 g par litre. Ce n'est pas les mêmes référentiels. Et donc, ça, c'est la normale. Au-dessus de 1,26 g par litre, deux fois à 15 jours d'intervalle, c'est le diabète de type 2 installé. Et entre les deux, entre 1,06 et 1,25, vous avez ce qu'on appelle le pré-diabète. Et la chose fondamentale, et je vous remercie de m'inviter pour en parler, c'est que quand on a le prédiabète, il est réversible. Si on fait ce qu'il faut, on ne le devient plus, on ne deviendra pas diabétique.
Alors vous êtes peu nombreux hein, encore à parler de ce prédiabète. Moi j'entends docteur Allouche parfois utiliser l'expression « j'ai un petit diabète ou j'ai un gros diabète ». Est-ce que ça a un sens quand on est diabétique de type 2 de dire qu'on fait un petit ou un gros diabète ou on est diabétique, basta, point.
Alors, un diabète installé, un diabète de type 2, c'est une maladie qui va vous adorer. Il va s'installer tranquillement et il va faire son travail. Son travail, c'est simple. Vous avez vu, en ce moment, il y a à EDF le problème de la corrosion des tuyaux. C'est la même chose. C'est-à-dire que dans les tuyaux des centrales EDF, il y a des métaux, il y a un peu de... Je pense qu'il n'y a pas de radioactivité. Mais il y a ces tuyaux, au bout de 20 ans, 30 ans, sont usés, ils se corrodent et ils se percent. Donc ça fait des fuites. Le diabète, c'est la même chose.
Non, je vous posais la question pour savoir si finalement un petit diabète, hein, ce qu'on appelle un petit diabète, ça pourrait être un peu la même chose qu'un prédiabète et qu'en face de petit diabète, on pourrait être réversible.
Alors, il n'y a pas... Alors,
vous voyez ce que je veux dire?
Attendez, quand on dit un 26, c'est pas... C'est comme, vous savez, la date de péremption des yaourts. Il ne se passe rien le 31 décembre dans une date, dans le yaourt qui déclenche à minuit. Voilà. Il y a des variations. Parce qu'il y a une deuxième information qui est très importante. Ce n'est pas seulement la glycémie à jeun. La glycémie à jeun, c'est one shot, c'est un jour. Il y a ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, c'est très important. C'est, en fait, dans le sang, vous avez de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est ce qui transporte l'oxygène. C'est pour ça que c'est rouge. Le sang, ça transporte l'oxygène, ça devient rouge. Et puis quand le sang a donné son oxygène aux organes, voilà, eh bien à ce moment-là, il devient bleu, entre guillemets, parce qu'il est chargé de gaz carbonique. Ouais. Mais dans le rouge, il y a une petite partie de cette protéine qu'on appelle l'hémoglobine, une petite partie, une fraction A1C, qui se marie avec le sucre. Vous savez, c'est une glycémie à jeun, donc il y a toujours du sucre dans votre sang, parce qu'il n'y a pas de sucre dans votre sang, ben, vous tombez en malaise et voilà. Eh bien, cette fraction, elle se marie avec le sucre. Elle est glyquée. Glyquée, ça veut dire mariée au sucre. Et donc, il faut que cette fraction soit entre 4,5 et 5,7% de glyquée. Au-dessus, entre 5,7 et 6,4, c'est le prédiabète. Au-dessus de 6,4, c'est le diabète. Alors, pourquoi 6,4,7? On va y revenir. C'est parce que justement, c'est l'usure du sucre sur les vaisseaux sanguins.
Le docteur Réginald Allouche est avec nous à l'occasion de cette journée mondiale du diabète jusqu'à 10h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Un message aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale du diabète, c'est prévention, prévention. Et faites-vous dépister, profitez-en. Absolument. Si vous ne connaissez pas votre statut. Le docteur Réginald Allouche est avec nous. Je rappelle, docteur Allouche, que vous avez publié la méthode anti-diabète, c'est la nouvelle méthode aux éditions Flammarion, avec beaucoup d'informations dessus. Beaucoup de gens qui pensent qui n'ont pas de symptômes, que tout va bien finalement, ne se sentent pas concernés par le diabète.
Ah oui, alors ça c'est... Alors d'abord, quand vous voulez savoir si vous l'avez ou pas, ou si vous avez un risque, interrogez vos parents. Est-ce que vos parents ont un diabète de type 2 ou pas, ou vos grands-parents? Regardez s'il y a une hérédité dans la famille. Ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est très très simple, vous faites une glycémie à jeun, une hémoglobine glyquée, et vous en profitez pour faire ce qu'on appelle les transaminases, pour savoir où en est votre foie, et en gros, vous saurez. Voilà. Si vous avez, on l'a dit tout à l'heure, si vous avez entre 1,05 et 1,26 grammes par litre, vous êtes en prédiabète. Et là, tout est possible et tout est réversible. Si vous avez au-dessus de 1,26 grammes par litre, eh bien, vous avez un diabète de type 2 qui, lui, est plutôt irréversible, sauf exception. Parce qu'il y a eu, effectivement des études.
Des phases de rémission.
De rémission chez les gens qui avaient un diabète installé. C'est la fameuse étude anglaise qui a été publiée, mais au prix de restrictions caloriques absolument drastiques. Ils mangeaient entre 600 et 700 calories par jour. Pendant plusieurs semaines. Donc, c'est quand même. Donc, ils ont perdu du poids.
Mais si on n'a pas de symptômes, est-ce que ça a un sens de faire le test, docteur Allouche?
Alors, ça a absolument un sens parce qu'il n'y a pas de symptômes dans le diabète. Vous avez des tas de gens qui découvrent le diabète comme ça, parce qu'à un moment, ils ont un malaise ou parce qu'ils voient moins bien. Parce qu'il faut parler des complications du diabète. Le diabète, c'est une maladie assez simple. Le sucre n'est plus régulé de façon convenable. On peut avoir plusieurs origines. D'ailleurs, petite histoire, c'est extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, On sait effectivement que le diabète a une forte connotation génétique et héréditaire. Mais on ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment qui va le faire, comment, à quel niveau. Il y a une expérience qui a été faite dans les années, je crois que c'était 1800, je crois, attendez, je l'ai noté, je crois que c'était 1849, hein, c'est quelque chose comme ça, par un très célèbre anatomiste et physiologiste, c'est Claude Bernard. Donc 1849. Il a fait, dans une leçon à l'université, il a fait la fameuse piqûre du chien. Il a piqué un chien au niveau du quatrième, du plancher du quatrième ventricule dans le cerveau, et il a provoqué un diabète. Il a fait une injection. Mmh. Donc, en fait, le diabète, c'est une maladie qui intégresse aussi le cerveau. C'est-à-dire que c'est à un moment, il se passe quelque chose dans l'organisme qui fait que le cerveau décide de plus réguler l'insuline de façon satisfaisante. C'est-à-dire que tous vos organes vont au cerveau. Hein. Tout est régulé par le patron. Et le patron, à un moment, il décide le diabète. Personne ne peut dire à quel moment le diabète va se déclarer. Donc pas de symptômes.
Forcément de symptômes.
Ça, pas du tout. C'est le vrai diabète, il n'y en a aucun, quasiment aucun.
Mais par exemple, les gens qui disent... on entend souvent ça, docteur Alouche, par exemple, j'ai soif.
Quand on a soif, je vais
uriner souvent.
Ça
veut dire qu'on est déjà passé au stade diabétique. C'est pas des symptômes de pré-diabète.
Alors, attention. Quand on commence à avoir une polydipsie, polyurie, pour utiliser des termes techniques, c'est-à-dire on a très soif, on a envie de pisser, ça, c'est plutôt des signes de diabète de type 1. Par exemple, chez l'enfant et l'ado. Oui, diabète, ça vient de quoi ? D'un mot grec, qui est diabétès, ça veut dire qui traverse. C'est-à-dire que c'est des gamins, ils boivent de l'eau, ils pissent. Ils boivent de l'eau, ils pissent. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont commencé à avoir une atteinte rénale, et en général, ça se finissait très très mal. Hein, parce que je rappelle que le diabète de type 1, il y a plusieurs siècles, c'était la mort, hein, quand même. Hein.
Avant l'invention de l'insuline.
Jusqu'à ce que l'insuline. Puisque je crois que le premier patient à avoir été traité, c'est en 1922, c'est un certain Thompson, qui a été le premier à être traité avec l'insuline de Benting et de Best, justement. Mmh. Et donc, quand on a très soif et envie de pisser, là, il faut quand même s'intéresser, il faut approfondir.
Mais c'est un symptôme de diabète de type 1 aussi?
Ça, ou bien sûr, pourquoi ? Si vous avez beaucoup de sucre dans le sang, parce que l'insuline ne vide pas, ne met pas le sucre dans les cellules, il le laisse dans le sang. Mmh. Hein ? C'est-à-dire vous avez les roues, c'est Paris, quoi. C'est-à-dire vous avez personne dans les immeubles, tout le monde sur la route. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut fluidifier. Pour fluidifier, on va essayer de faire rentrer les gens, mais si on n'a pas d'insuline, on va essayer de vider les voitures. Voilà. Mmh. Donc, ou de les diluer. Donc, élargir les avenues. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si l'image est bonne, mais en gros, boire pourquoi ? Pour diluer le taux de sucre dans le sang. Donc on a soif, on fait rentrer de l'eau parce qu'il y a trop de sucre.
Ouais. Voilà.
Donc ça c'est plutôt un signe.
Se balade.
Se balade, voilà. Mais le diabète de type 2, c'est-à-dire le plus commun, 90%, les premiers signes, alors du pré-diabète, ça peut être un peu des somnolences après le repas, à midi, vous savez, c'est ces réunions où on a un collègue qui s'endort vraiment. Il a vraiment. C'est pas du tout qu'il veut pas bosser, c'est qu'il. Il peut pas s'empêcher de s'endormir. Ça peut être une certaine irritabilité. Des gens qui de temps en temps, ont une petite irritabilité. Ça peut être aussi des marques un peu brunes dans le cou, des petites pigmentations. Mmh. Mais tout ça n'est pas constant. Et on peut très bien être en pré-diabète pendant 10 ans. Il faut 10-15 ans pour faire un diabète.
Hein. Alors, ce qui est à dire, et c'est ça qui est important dans ce que vous dites, docteur Alouche, c'est qu'une grande majorité des personnes qui sont diabétiques aujourd'hui l'ignorent et le découvrent...
Pré-diabétique.
Pré-diabétique. Mais diabétique aussi.
Et une petite partie des diabétiques, on pense que 50% des diabétiques... Oui, vous avez raison, c'est une grosse partie.
Mais 50% des diabétiques s'ignorent et le découvrent à l'occasion d'un incident de santé plus grave. Oui. Ça peut être un infarctus, par exemple,
hein,
et subitement, les gens découvrent qu'il y a un lien entre l'infarctus et le diabète, et qu'ils sont diabétiques depuis 10 ans.
Oui, il y a 30 ans, il y a 30-40 ans, il n'y avait pas de diabétique de plus de 60-65 ans, ils mouraient tous d'un infarctus du myocarde.
C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, finalement, vous découvrez que vous êtes diabétique parce que vous avez un autre pépin de santé.
Exactement.
Et c'est à ce moment-là qu'on dit
une complication.
Voilà.
Alors, les complications, on va en parler, mais on peut aussi le faire parce qu'on a 30 ans, ou 35 ans, et qu'on prend un prêt pour une assurance, parce qu'on va acheter un appartement.
Et là, subitement, on vous demande de faire le test.
Voilà, test, et on dit, mais dites-moi, votre glycémie est très augmentée, il faut aller l'explorer, ainsi de suite. D'accord ? Donc, c'est quoi les complications ? Alors, le problème du diabète, c'est les complications. Et alors, les complications, aujourd'hui, personne ne peut dire qui va faire les complications et qui ne va pas les faire. Vous avez des, comme vous avez parlé des petits diabètes, des gens qui ont du diabète, bon bah voilà, ils vont mourir dans leur lit à 120 ans.
Vous l'entendez jamais ça ? J'ai un petit peu de diabète.
Oui.
Vous n'entendez pas ça ?
On l'entend.
Ouais, j'ai un petit peu de diabète.
Alors, je vais vous donner les chiffres, comme ça on va être tranquille. Je vous ai parlé de l'hémoglobine. Bon, vous avez la glycémie à jeun le matin qui a augmenté. Bon, très bien, mais c'est one shot. Et vous avez la glyquée, l'hémoglobine glyquée, comme le globule rouge qui contient l'hémoglobine, a une espérance de vie de 3 mois. C'est la moyenne des glycémies pendant 3 mois. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les deux. Parce que vous pouvez très bien avoir une glycémie à jeun normale, mais une glyquée augmentée. Et cette glyquée, c'est elle qui va déterminer l'apparition de complications possibles. J'explique. J'ai parlé des tuyaux d'EDF, les corrosions. Mmh. Ben, c'est la même chose chez un diabétique. C'est-à-dire que vous avez, excusez-moi, vous avez du sucre dans le sang, et ce sucre, il va user les parois des tuyaux. Il va les user, il va les gratter. Voilà. Donc, il y a les deux complications majeures dans le diabète. C'est ce qu'on appelle la micro-angiopathie. Micro, petit, angio-vaisseau-pathie, maladie. Voilà. Et ça, ça se déclenche après 6,4% au-dessus de 6,4% d'hémoglobine glyquée. Et puis vous avez la macro-angiopathie, gros macro, angio-vaisseau-pathie, maladie, qui va attaquer les gros vaisseaux, les gros tuyaux, les artères fémorales, la rénale, les carotides et ainsi de suite, et les coronaires. Donc ça, c'est au-dessus de 7%. Voilà. Donc c'est simple. Vous avez un diabétique qui vient vous voir, ce qu'il faut, c'est essayer impérativement, et plus tôt il vient, mieux c'est, de passer en dessous de 6,4. En dessous de 6,4, l'action corrosive du sucre a très très peu d'influence. Parce que quand j'ai dit micro-angiopathie, je vais parler des complications. Quelles sont les plus petites artères ? Il y en a une que vous ne voyez pas tous les jours et qui vous amène du sang, c'est celle dans les yeux. Dans les yeux, vous avez des artères qui sont quasi transparentes, et qui vous envoie du sang que vous ne voyez pas. Vous pouvez le voir, si vous écrasez vos orbites comme ça, vous êtes dans un...
Donc là, vous avez mis vos mains sur vos yeux, vos poings sur vos yeux.
Voilà, et puis quand vous les ouvrez, si c'est sur de la neige, vous allez voir les flux sanguins dans les yeux. D'accord. Ça, c'est des artères qui vont irriguer la rétine, qui est le capteur, en fait, de l'œil. Et ces artères-là, elles sont très sensibles, elles sont toutes petites. Où il y a d'autres artères.
Alors c'est pour ça qu'on conseille à quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué diabétique
d'aller voir son ophtalmo pour faire un fond d'œil. Pour éviter qu'il ait une rétinopathie. Vous avez raison, rétinopathie diabétique. Ensuite, vous avez encore quelques, vous avez comme petite artère. Dans vos nerfs, là, dans vos doigts, quand vous touchez, vous avez des nerfs. Ces nerfs, pour être vivants, ils ont bien besoin d'avoir du sang. Donc il y a des toutes petites artérioles qui amènent le sang, là. Si ces petites artères sont touchées, eh bien, vous pouvez, à force, si je fais ça par exemple, et eh bien à ce moment-là, et si je ne sens rien, je vais me faire des micro-traumatismes au bout des doigts ou au bout des pieds, si les chaussures sont un peu serrées. Et là, c'est par exemple ce qu'on appelle dans la neuropathie diabétique, à ce moment-là, on risque d'avoir des phénomènes qui sont des phénomènes de mauvaise préhension. Après, on va parler des amputations, hein. Je vais y arriver. Troisième artère, artérioles qui sont touchées, dans les reins. Vous avez dans les reins des petits néphrons qui filtrent, et ces artères. Donc, première complication, si on est au-dessus de 6,4, c'est les risques de rétinopathie diabétique et donc de cécité à terme. Insuffisance rénale, parce que je rappelle que le diabète, c'est la première cause de dialyse rénale dans le monde, première cause confondue. Et troisièmement, c'est le risque de neuropathie diabétique, c'est-à-dire des douleurs aux extrémités, choses comme ça. Ça, c'est micro.
Et là, en fait, on parle du diabète, mais vous êtes en train de nous parler des complications. Et finalement, plus que le diabète, c'est des complications qui sont graves.
Ah bah oui, parce que quand vous commencez à avoir des problèmes pour lire, quand vous commencez à avoir des problèmes pour avec vos reins ou des problèmes de sensibilité, là, la vie commence à changer drastiquement. C'est pour ça que je trouve qu'on est vraiment complaisant avec cette maladie. Extrêmement complaisant. Il faut tout faire, je dis bien tout faire, pour qu'il ne s'installe pas chez vous. Foutez-le dehors. Voilà. Et d'ailleurs, les médecins aujourd'hui, les médecins l'ont bien compris. Avant, il y avait une espèce d'inertie thérapeutique. Alors, vous êtes diabétique, je vais vous donner ce médicament, puis 5 ans après, je vous en donne un deuxième, et puis après, je vous en donne un troisième, et puis après, vous finissez à l'insuline. Aujourd'hui, on est dans l'intensification thérapeutique. Vous arrivez avec un diabète qui est pas trop long, il faut le décapiter, il faut le tuer, il faut le sortir de chez vous. Et pour ça, peut-être qu'il faudra même vous donner 3 médicaments. Mais les médicaments, personne n'est favorable aux médicaments. Moi, je suis médecin, mais les médicaments, ce sont des armes. Si vous avez besoin d'un canon lourd pendant 2 semaines pour faire une offensive, vous tirez au canon lourd, d'accord ? Et à ce moment-là, on prend 3, et puis au bout de 3 mois, on en enlève 1, puis au bout de 6 mois, on en enlève 1. Mesures diététiques, exercice physique, il faut s'en occuper. Ne laissez pas rentrer, s'il vous plaît.
Docteur Alouche est venu avec son bazooka ce matin, l'occasion de la journée mondiale du diabète, et on en parle jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, il n'est jamais trop tard pour la prévention, prévenir le diabète. On en parle ce matin avec le docteur Réginald Alouche. Je rappelle que c'est la journée mondiale du diabète, mais avec vous, c'est tous les jours la journée du diabète, oui. Hein, puisque c'est vraiment votre cheval de bataille, docteur Alouche.
La prévention. Voilà. Au fond, le diabète, c'est une maladie, on peut faire un... c'est un ami qu'on met à la porte. Parce qu'il est très très bien chez vous.
Oui, mais entre le moment où vous avez commencé la médecine et aujourd'hui, vous avez vu des traitements, on fait des progrès formidables.
Oui, formidable.
Est-ce que finalement le fait qu'il y ait tous ces nouveaux traitements qui soient formidables, ça fait pas que le diabète est une maladie qu'on met sous le tapis ?
Ah, vous avez absolument raison. Le problème, c'est que vous avez des attitudes, c'est de dire parce que le premier
ça devient chronique, voyez.
Le premier traitement. Alors récapitulons. Vous avez une hérédité favorable. À avoir le diabète, pour des tas de raisons. Vous n'y êtes pour rien d'ailleurs, hein, pas de culpabilité. Et puis, vous avez un mode de vie trop sédentaire et vous mangez trop. Voilà, vous ne mangez pas bien. Et bien à ce moment-là, il faut prendre le premier traitement, parce qu'on a parlé de médicaments, mais le vrai premier traitement, c'est avoir un rééquilibrage alimentaire, je ne parle pas de régime, de rééquilibrer de façon alimentaire, hein, et puis de faire de l'exercice physique. Parce que quand on fait de l'exercice physique, qu'est-ce qu'on fait ? On brûle du sucre dans des muscles. On fait marcher ses chaudières. Voilà. En fait, en gros, c'est quoi quelqu'un qui a un diabète ? C'est quelqu'un qui a une prédisposition héréditaire et qui se remplit plus qu'il ne se vide. Voilà. Et comme il se remplit plus qu'il ne se vide, eh bien tout ça, ça se stocke, ça se circule dans le sang, et puis jusqu'au jour où on n'arrive plus à stocker, on n'arrive plus à grossir, et puis le sucre se balade dans le sang et fait son travail de ruine. Donc, et donc, on a parlé tout à l'heure de la micro-angiopathie. La macro-angiopathie, qu'est-ce que c'est ? C'est que ça attaque les gros vaisseaux.
Ouais.
Et comme ça attaque les gros vaisseaux, ça irrigue plus les extrémités, particulièrement le pied, puisque vous savez qu'il y a le pied diabétique. Il y a des services spécialisés dans le pied diabétique. C'est-à-dire que vous commencez à avoir l'orteil qui pourrit, on coupe l'orteil, puis après on coupe un peu plus. C'est la première cause d'amputation non traumatique, le diabète, quand même. Il faut le savoir. Donc, je veux dire... Alors, et personne ne peut dire qui aura ça et qui n'aura pas ça. Il y a aussi la notion de terrain. On en a parlé une autre semaine sur les terrains artériels. Les gens qui ont un bon terrain artériel, d'autres qui ont un mauvais terrain artériel. Donc, ce qu'il faut, c'est prévenir. Donc quand vous allez voir votre médecin, qu'est-ce qu'il va faire, votre médecin ? Il va d'abord vous faire un bilan. Il va regarder où vous en êtes. Il va voir votre âge. Il va savoir si votre diabète est ancien ou s'il est nouveau. S'il est jeune, le diabète, c'est un très bon signe. Si vous venez tôt, c'est très très bien, parce qu'à ce moment-là, il va mettre en place les règles diététiques, les règles d'exercice physique. Il y a une publication qui a 20 ans maintenant et que tout le monde reconnaît, c'est la règle du 150 minutes d'exercice par semaine, qui diminue de 57% le risque de devenir diabétique. Voilà. Vous faites 3 fois 5, 5 fois 3, comme vous voulez. Mais vous faites l'exercice physique. Parce que comme ça, vous diminuez par 2 les risques de devenir diabétique quand vous êtes prédiabétique. C'est colossal. Hein, c'est colossal. Voilà. Donc après, il va dire où vous en êtes. Je donne des médicaments, je ne donne pas de médicaments. Et là, c'est là où il y a des avis qui divergent. Il y a les partisans de l'intensification thérapeutique. C'est-à-dire on tape très fort, tout de suite. Et puis après, avec les effets de la mise en place du rééquilibrage alimentaire et de l'exercice physique, eh ben on enlèvera des médicaments. Les médicaments, c'est tout médicament. Le problème des médicaments, c'est que tous les médicaments actifs, vraiment actifs, ont des effets indésirables. Tous. Sinon, ils ne sont pas actifs. Donc, alors, le problème, c'est quand vous voyez la liste sur la notice, vous avez envie de vous pendre. Donc, il faut regarder les très fréquents. Il ne faut pas regarder les peu fréquents. Ça, c'est des notices un peu juridiques. C'est pour dire, je vous avais prévenu hein, que vous pourriez avoir ça. Donc, il ne faut pas trop non plus. Voilà. Mais aujourd'hui, sur le diabète, il y a des classes de médicaments qui sont vraiment puissantes, extraordinaires, mais qui ont des effets indésirables. Je prends le médicament de référence, qui est la metformine qu'on connaît depuis la nuit des temps, ça fait 80 ans qu'on l'utilise. Vous la prenez les 2-3 premiers jours, vous avez des diarrhées, vous avez mal au ventre. Normalement, ça passe. Et puis, il y a des gens chez qui ça ne passe pas. Voilà. Vous avez ensuite la deuxième classe thérapeutique qui sont les agonistes du GLP1. Excusez-moi, c'est par piqûre. Ce n'est pas de l'insuline, c'est par piqûre. C'est une fois par semaine ou tous les jours. Et ça, ça marche extrêmement bien. Mais 20%, 25% des patients ne peuvent pas les supporter. Vous avez la troisième classe, les inhibiteurs du SGLT2 qui protègent le cœur, le rein et le foie. Et ça, c'est un très très bon médicament qui lui a très peu d'effets indésirables et qui a un effet sur le diabète. Et puis maintenant, on a une quatrième classe qui est en train d'arriver, qui est les inhibiteurs du GLP, les agonistes du GLP1 et du GIP, qui sont une nouvelle classe thérapeutique qui est arrivée et qui est incroyable parce que ça va permettre aussi de perdre beaucoup de poids. Parce que le poids, c'est la clé. Dans le diabète. Il faut perdre du poids. Souvent, les gens qui ont un diabète type 2, ils sont en surpoids ou obèses. Il n'y a pas de secret. Ils perdent du poids, leur diabète diminue de façon significative s'il n'est pas trop ancien, si c'est pas trop installé dans la maison. Parce que quand il est bien dans la baraque, il ne veut pas sortir du canapé. Mais il faut quand même le foutre dehors. C'est un ami qui vous veut du mal. Il faut le mettre dehors. Il est très sympathique. Il n'y a pas de symptômes. Tout va bien. On s'endort un peu après la télé. Mais c'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible. Parce que les complications, vous ne savez pas celles que vous aurez. Alors, j'ai pas parlé d'autres classes de médicaments, qui sont les sulfamides d'hypoglycémie, ainsi de suite, mais qui sont déjà un peu plus anciens.
D'accord. Quand on tape fort et qu'on fait, donc, on associe plusieurs médicaments, on en associe combien à peu près?
Ça, c'est le médecin qui décide. Il peut en donner 1, 2, voire 3. Et puis après, avec les effets du rééquilibrage alimentaire et l'exercice physique, il va enlever le troisième, et puis après, il va enlever le deuxième, et puis parfois, on enlève le troisième. Donc, ce qui est une bonne nouvelle.
Quelqu'un qui vient vous voir aujourd'hui, Réginald Allouche, oui. Qu'est-ce que vous faites pour lui?
Ce que je fais pour lui, c'est que d'abord, je regarde à quel niveau il en est. Est-ce qu'il est en pré-diabète ou en diabète? Ensuite, diabète type 1, type 2, ainsi de suite. Et puis après, on négocie ensemble un rééquilibrage alimentaire. Parce que quand vous avez 20 ans d'habitude alimentaire, c'est pas facile de changer du jour au lendemain. C'est pas vrai, On a des habitudes, il y a des choses qu'on aime. Souvent, on aime les féculents, les glucides, on aime le sucre. Beaucoup de mes patients disent, mais j'ai une appétence incroyable pour le sucre. Donc, il faut trouver des leurres. Il faut faire leurrer le cerveau. Parce que le cerveau, vous savez qu'il y a une couche raisonnable. Oui, il faut que je fasse attention. Mais il y a une couche inconsciente, qui est plus basse, qui s'appelle le noyau arché, qui compte les calories, qui n'est pas du tout raisonnable. Donc,
ça commence par un rééquilibrage alimentaire.
Ah, toujours. Ouais. Toujours.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut supprimer les sucres quand on est diabétique?
Non, pas du tout. Et de l'exercice. Je dirais même de l'exercice avant le rééquilibrage alimentaire. Voilà. Je le dis. Je veux dire que le problème, aujourd'hui, nous avons des urbanistes qui sont certes très bons, mais qui n'ont pas compris que l'homme, il est fait à 80% de masse maigre avec des muscles. Et que s'il ne fait pas marcher ses muscles, c'est comme une entreprise qui a 20 000 salariés et qui ne les fait pas bosser. D'accord ? C'est une société qui a très très peu d'espérance de vie. En fait, on vit dans un monde où on a oublié qui on était. On a oublié la nature. Alors c'est très bien de dire le réchauffement, le machin, le truc, mais il faut penser aux hommes. Aujourd'hui, on est en train d'entasser les gens dans des villes où il n'y a aucune possibilité, ou très peu, de faire de l'exercice. Et en plus, on vous livre l'alimentation. C'est-à-dire que vous n'allez même pas la chercher. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un truc, c'est un non-sens absolu. Non-sens absolu. Donc, et puis bougez pas, parce que si vous bougez, vous faites ça, ça implique machin. Il y a quelque chose qui ne va pas très très bien. Il faut sauver les hommes. C'est bien de sauver la Terre, mais il faut sauver les hommes aussi. Et je pense qu'on ne les sauve pas, les hommes. Il faut penser aux hommes. Quand je dis les hommes, c'est générique. Et nos enfants aussi. Parce qu'aujourd'hui, on parle de très bien. Ne me faites pas parler de ce que je n'ai pas envie de parler, mais je crois que vraiment, on pense plus aux hommes. On pense systémique, on pense collectif, mais la réalité, c'est que les gens, ils ont besoin de bouger. Quels sont les endroits qui permettent aujourd'hui de bouger dans une ville comme Paris? Quels sont les endroits qui permettent aux hommes de bouger à Paris? Voilà. Alors, c'est ça une ville saine.
C'est bien parce qu'on a un maire à Paris qui me fait beaucoup de rues piétonnes.
Bah oui. Je sais qu'on dit beaucoup de choses sur ce maire, sur cette maire. On dit maire ou maire?
Mairesse.
Mais la réalité, c'est que peut-être que elle, alors je sais que c'est pas très, mais peut-être qu'elle a fait des choses que les autres n'ont pas fait.
Il reste un fan.
Non, mais
on l'a trouvé. On l'a trouvé.
C'est pas. Il y en a un.
Il y en a un.
Non.
Anne Hidalgo, vous avez voilà le docteur Allouche dit au moins que vous avez fait marcher les Parisiens.
Il faut les faire
parce qu'il y a plus de transport en commun.
Il faut les faire marcher. Le problème, c'est la coordination avec le transport en commun. C'est un vrai problème.
Non. Ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, c'est que avec des mesures comme un rééquilibrage alimentaire et le fait de bouger, on peut inverser la tendance. C'est ça.
Ah, c'est pas moi qui le dis. C'est des statistiques. Il y a même les Américains ont fait le DPP, le Diabetes Prevention Program, qui est en route aux États-Unis, parce que pour les États-Unis, c'est une catastrophe, le diabète. Une catastrophe. Vous savez que ce stylo-là, ce stylo, en France, alors, il vaut...
On rappelle ce que le ça, stylo que vous montrez, c'est
ça,
le...
ça, c'est un agoniste du GLP-1. Ce stylo, en France, il vaut à peu près 79 ou 80 euros, remboursé par la Sécurité sociale. Aux États-Unis, il vaut entre 400 et 600 dollars. D'accord ? Donc, c'est une... Aux États-Unis, c'est une vraie plaie, ce diabète. C'est une vraie plaie. Et donc, le DPP, le Diabetes Prevention Program, il commence par exercice. Et on sait que si vous pratiquez 150 minutes d'exercice physique cardio par semaine, vous diminuez les risques de devenir diabétique de 57%.
Alors, vous avez déjà fait une vidéo sur le sujet, docteur Allouche, c'est le fait de pouvoir prendre sa glycémie. Vous verrez, regardez sur la chaîne YouTube. Mais s'il y a un message à faire passer, c'est que même si tout va bien, que vous n'avez pas de symptômes, aujourd'hui, prenez au moins cette résolution d'aller vous faire dépister.
Mais oui, parce qu'on est dans un, on est dans le monde de l'excès aujourd'hui. Il y a une offre pléthorique sur tout. Donc, faire une fois par an un bilan, un petit bilan, où on mesure la glycémie à jeun, on regarde si on n'a pas une anémie en faisant une numération formule, on regarde si on a un foie qui fonctionne bien avec les alates et les azates, si les transaminases, on regarde l'hémoglobine glyquée, on regarde un peu, voilà. Et on fait ça une fois par an. Et c'est une fois par an, et pour la collectivité, ça coûte pas très très cher, et au moins on sait pourquoi. Parce que prévenir, la prévention et la maladie, vous savez quel est le facteur économique entre les deux ? 40. C'est-à-dire qu'une maladie coûte 40 fois plus cher que sa prévention. 40 fois plus cher. C'est absolument colossal. Et là, on est dans une impasse. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus assez de médecins. Pour des tas de raisons que je n'expliquerai pas, et surtout ne me demandez pas pourquoi, parce que je vais m'énerver. Mais il n'y a pas assez de médecins. Si vous voulez en plus qu'ils fassent de la... Comment ils vont faire de la prévention ? Déjà, il y a la queue partout. Comment voulez-vous qu'en plus... Et la prévention, pour expliquer un rééquilibrage alimentaire, ce n'est pas 10 minutes.
Mais quand il y a des traitements, est-ce qu'on fait de la prévention ?
Vous voyez, Ah, vous voulez dire pourquoi faire de la prévention s'il y a des traitements ?
Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à partir du moment où les traitements existent, eh ben, on laisse tomber
parce
la prévention.
Parce que
les traitements rapportent plus d'argent.
Ah non, mais ça c'est autre chose, c'est autre chose. On est dans un système capitaliste, les sociétés qui font des médicaments...
Parce que le diabète, ça rapporte beaucoup d'argent.
Elles doivent faire... Oui, mais attendez, on est dans un système capitaliste. Donc, alors on peut tout ce qu'on veut, Big Pharma, machin, mais enfin, heureusement qu'il y a Big Pharma, hein, parce que s'il n'y avait pas Big Pharma, il n'y aurait pas d'antibiotiques, il n'y aurait pas d'antihypertenseurs, Le seul problème, c'est quoi ? C'est que tout médicament actif a des effets indésirables. Donc, il faut éviter... de se retrouver dans le cas où on prend ces médicaments qu'on sera obligé de prendre. Peut-être à vie. Regardez l'hypertension aujourd'hui. Un hypertendu, quand il est hypertendu, il ne peut plus revenir en arrière. Et donc, il prend son comprimé. Donc voilà, on est dans ce système-là. Et si on avait fait de la prévention, le problème de l'hypertension, c'est que la prévention, elle est un peu plus compliquée. Parce qu'il y a un facteur familial et génétique très fort dans l'hypertension. Et donc, il y a beaucoup de gens hypertendus. L'hypertension, c'est aussi l'insuffisance cardiaque à terme, c'est plein de choses. Donc, on est dans un système comme ça. Ce système marche plutôt bien, mais ça n'est pas parce que les industriels de la pharmacie trouvent des médicaments qui sont puissants et qui sont bien tolérés qu'on doit attendre ce moment-là en se disant « j'en ai rien à faire ». De toute façon, dans 10 ans, je prendrai les médicaments. C'est pas comme ça que ça marche, parce que si par chance les médicaments vous vont, bah ça va. Ceci étant, ça coûte à la collectivité, parce que les médicaments coûtent de plus en plus cher, parce qu'ils sont de plus en plus élaborés, de plus en plus techniques. Mais surtout, c'est votre vie. Personne ne vous dit que vous allez les tolérer. Et personne ne vous dit que vous ne développerez pas quand même les complications. Donc en fait, la prévention, c'est tout bénéfice. Voilà. Donc faites de la prévention. Vous, Philippe Robuchon, qu'est-ce que vous faites dans ces émissions ? Vous faites quoi ? Vous ne traitez pas les gens, vous faites de la prévention. Et vous avez raison. Pourquoi ces vidéos ont du succès ? Elles ont du succès, hein, je le dis sans modestie. Mais parce que vous donnez de l'information aux gens pour qu'ils arrivent à prévenir ces maladies. Parce que, paradoxalement, elles sont assez faciles à prévenir. Un petit truc. Vous voulez savoir si vous êtes prédiabétique ? Il y a un test qui s'appelle le Finnish Test, qui est un test finlandais qui est reconnu depuis 25 ans, que j'utilise d'ailleurs dans mon livre.
Il y a le test dans votre livre.
Voilà. Ouais. Et vous savez si vous avez, si vous êtes prédiabétique, vous savez des risques d'être diabétique. Mmh. Voilà. C'est rien, c'est sur Internet, clic, 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 et vous savez à peu près. Et si vous savez, vous allez voir votre médecin traitant. Les médecins français sont de très bons médecins, et il vous dira ce qu'il faut faire. Voilà. Et vous écouterez les vidéos de Beurre FM qui vous diront voilà ce qu'il faut faire si vous avez un risque d'être diabétique.
Bien, et mouiller la chemise, comme dirait le docteur.
Toujours mouiller la chemise.
Alouche, merci d'avoir été avec nous, docteur Alouche. Vous réécouterez donc l'émission en podcast en faisant votre gym, en mouillant votre chemise. Vous regarderez la vidéo sur la chaîne YouTube. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.